L'homme que nous recevons cet après-midi a reçu le Grand Prix INSERM la semaine dernière pour l'ensemble de ses recherches sur les mécanismes physiopathologiques des maladies psychiatriques. Ses travaux concernent principalement les mécanismes de l'addiction. Pierre Vincenzo Piazza a en effet démontré que l'addiction était bien une maladie et qu'elle devait être soignée comme telle. Avec son équipe, il travaille actuellement à la mise au point d'un médicament qui serait utilisé comme traitement contre l'addiction au cannabis. On le retrouve dans un instant pour évoquer ses recherches et son parcours. Avec vos messages, vos questions, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Que faut-il retenir de l'accord de Paris sur le climat? C'est aujourd'hui à la une de la science, Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu, depuis samedi 19h, la joie inonde les discours et les réseaux sociaux au sujet de l'accord de Paris. Faut-il réellement se réjouir de ce texte? On pose la question à nos invités dans un instant pour la une.
Stéphanie Texier réalise cette tête au carré, préparée par Lucie Sarfati avec Carole Sauvage.
La tête au carré. Magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Dossier cet après-midi avec le Grand Prix 2015 de l'INSERM, Pierre Vincenzo Piazza. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Gironde à Bordeaux. Vous êtes l'un des plus grands chercheurs dans le monde sur ce domaine de l'addictologie. Et vous avez révélé, entre autres, l'existence d'une vulnérabilité biologique individuelle à la toxicomanie. C'est un concept qui était totalement méconnu il y a encore quelques années.
Oui. Bon, il y a quelques années, c'est un concept qui était complètement méconnu quand j'ai démarré dans le domaine. Donc, il y a 25 ans. Nos recherches ont pu montrer que la biologie du sujet, que c'est pas que la génétique, hein, c'est aussi ses expériences de vie qui modifient la structure de son cerveau, peuvent rendre des sujets vulnérables aux drogues.
Et vous avez fait des découvertes très importantes sur le mécanisme des addictions au cannabis qui pourrait, je le disais tout à l'heure, déboucher sur la mise au point de médicaments. On va évidemment en parler abondamment avec vous dans un instant, Pierre Vincenzo Piazza. Et ce sera également l'occasion d'évoquer votre parcours de chercheur depuis votre terre sicilienne jusqu'à votre laboratoire de Bordeaux. On se retrouve donc dans un instant avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent.
La Une du Climat, en partenariat avec Reporter.net. Le quotidien de l'écologie.
Faut-il se réjouir de l'accord de Paris? C'est à la une de la science aujourd'hui.
Le projet d'accord proposé est différencié, juste, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant. J'ai une pensée particulière pour tous ceux, ministres, négociateurs, militants, qui auraient voulu être là en cette circonstance probablement historique, mais qui ont agi et lutté sans pouvoir connaître ce jour.
Voilà l'émotion au Bourget dans la voix de Laurent Fabius lorsqu'il a présenté donc la version finale de l'accord mettant fin à la 21e conférence pour le climat. Mais que contient réellement cet accord de Paris? Bien, pour répondre à cette question, nous sommes au téléphone avec vous, Olivier Godard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS et professeur à l'école polytechnique et puis en ligne également avec nous depuis deux semaines pour la COP21, Hervé Kempf. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Journaliste pour le magazine Reporter.net, donc le quotidien de l'écologie. Hervé, tout le monde avait l'air très heureux samedi soir au Bourget. Est-ce qu'il faut se réjouir pour autant de cet accord de Paris?
Oui, c'est quand même un succès. Après tout, ça aurait pu être un échec. L'ensemble des pays du monde se mettent d'accord pour rediscuter et retravailler avec cet objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre et sans plus de questions sur la nature même du changement climatique. Il y a aussi un cadre juridique, même si on va voir qu'il est très flou, mais enfin il y a un cadre sur lequel travailler. Et il y a enfin des objectifs ambitieux qui sont nouveaux, même si là aussi on va le voir, on ne se donne pas vraiment le moyen de les attendre. Donc globalement, oui, c'est une bonne chose et qui rompt le cycle négatif qui avait été enclenché à Copenhague en 2009 avec l'échec fracassant dont vous vous souvenez.
Olivier Godard, il y a quand même une surprise dans ce texte. C'est le 1,5 degré visé de réchauffement par tous les pays. Est-ce qu'on a encore une chance d'atteindre cette cible des 1,5 degrés de réchauffement?
Écoutez, de mon point de vue, c'est un objectif qui est un leurre. Il n'est déjà plus possible de respecter cette limite de 1 degré et demi parce qu'on est déjà à plus 1 degré depuis l'ère industrielle et que tous les gaz accumulés dans l'atmosphère n'ont pas encore révélé la totalité de leur impact en termes de réchauffement et de bouleversement, en gros, des équilibres climatiques, compte tenu des effets seconds, des effets de feedback, de rétroaction, etc., qui s'enchaînent derrière. Donc, ça a été mis dans le texte parce que certaines parties le demandaient et que la logique d'un accord international qui doit être unanime, c'est que toutes les lignes rouges des uns et des autres soient respectées, même si c'est une fiction. Mais c'est une fiction un peu mensongère, je crois, et qui est d'ailleurs à la hauteur de l'absence des moyens qui seraient en rapport avec un tel objectif. Puisque finalement on se donne un objectif inatteignable et que, bon, dont on sait qu'il n'est pas atteignable, mais on se donne même pas les moyens pour atteindre des objectifs qui, eux, seraient atteignables.
Donc fiction mensongère plutôt qu'un texte à succès, comme le disait tout à l'heure Hervé ?
Ah ben non, c'est aussi un texte à succès. C'est parce qu'il n'y aurait pas eu d'accord universel dans cette occasion. Ça fait près de 20 ans qu'on n'a pas eu de texte équivalent. Le précédent, c'était le protocole de Kyoto de 1997. On n'aurait pas eu d'accord à Paris cette fois-ci. C'était le délitement complet de toute l'action internationale sur le changement climatique qui était derrière. Parce que ça voulait dire que, décidément, le processus international ne pouvait pas aboutir. Donc c'est un grand soulagement de toutes les parties, que ce soit gouvernementales et non gouvernementales, dans l'idée qu'on n'a pas cassé la machine, qu'on l'a fait continuer, qu'on a l'équipe de procédures et qu'on espère que les procédures qu'on a mises en place, qui sont assez précises, à la différence des moyens, vont peu à peu résorber l'écart qu'il y a entre un objectif raisonnable, c'est-à-dire accessible, et puis les engagements, les intentions plutôt, actuellement définies par les États.
En termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, Hervé Kempf, quelles dispositions ont été prises ?
L'autre objectif important qui est de plafonner les émissions de l'ensemble de la planète. Le problème, c'est qu'on dit qu'on va plafonner, mais on ne donne pas de date. Et c'est seulement dans la deuxième partie du 21e siècle que l'équilibre, c'est-à-dire l'équilibre net entre les émissions et l'absorption par les puits, par les océans, par les forêts, serait atteint. Donc on a là un objectif très ambitieux, mais sans date, il paraît effectivement, comme le disait Olivier Godard, un petit peu illusoire si on ne se donne pas une règle plus ferme et une date, une échéance plus claire.
Mais oui, justement, Olivier Godard, quelle est la portée d'un accord qui n'impose aucune contrainte chiffrée ou temporelle ?
Écoutez, c'est un accord qui crée une ambiance, on pourrait dire, surveiller sans punir, pour reprendre le titre du bouquin de Michel Foucault. Surveiller parce que tous les États ont accepté de rendre compte de manière très régulière de leurs émissions avec des inventaires, de leurs actions qu'ils vont prendre pour réduire leurs émissions et montrer une progression dans leur trajectoire, et accepter que tout ceci soit revu par des comités d'experts auprès de la Convention climat, qui va regarder si les chiffres sont crédibles, si les procédures et directives sont respectées, etc. Donc on a mis en place toute une procédure de surveillance qui rendra clair et transparent aux yeux de tout le monde ce qui se fait dans chaque pays. Et ça de manière universelle, sans le réserver aux seuls pays développés, ce qui était le cas jusqu'ici avec le protocole de Kyoto. Donc de ce point de vue, on met en place une machine, un ensemble de procédures, et on espère que peu à peu, la machine va pousser les uns et donner des repères communs qui donnent suffisamment confiance aux autres pour continuer.
Olivier Godard, est-ce que la Chine a été plus ambitieuse que les États-Unis en termes d'efforts au vu des promesses faites par tous les pays ?
Oh, c'est possible qu'elle soit plus ambitieuse, mais l'ambition n'est pas suffisante ni d'un côté ni de l'autre. Et cela se voit quand on compare les chiffres qu'ils ont annoncés et qu'on les traduit en 2030, on s'aperçoit que par rapport au budget que l'on devrait avoir pour rester dans les limites de 2 degrés, ces deux pays s'accordent en fait sur l'idée qu'ils vont s'accaparer 70% du budget disponible. Or, ils ne représentent pas 70% de la population, ni 70% du PIB, mais bien simplement 23% de la population et 35% du PIB mondial ensemble. Ce qui veut dire qu'il y a un grave problème du point de vue de la justice climatique à cette procédure dans laquelle chacun définit lui-même ses objectifs, puisque c'est une manière de s'approprier chacun la part du gâteau qu'il veut prendre, et puis à laisser ceux qui ont moins de moyens se débrouiller avec ce qui reste, c'est-à-dire pas grand-chose.
Olivier Godard, Hervé Kempf, on a un courriel d'auditeur, là c'est André qui nous écrit depuis Bruxelles. Il aimerait savoir si, comme certains le disent, il est confirmé que le texte final de l'accord risque de favoriser le recours à la géo-ingénierie, ce qui nous promet pas d'ailleurs des jours vraiment heureux, termine André dans son courriel. Qui veut répondre, Hervé Kempf?
Écoutez, c'est peut-être dans l'idée du plafonnement des émissions que c'est éventuellement compréhensible, mais ça n'est pas spécifié de manière explicite.
Mais est-ce que justement, Olivier Godard, implicitement, on va faire plus appel à la géo-ingénierie ou pas ?
C'est dans l'équilibre, dans l'idée d'équilibre entre ce que l'on met dans l'atmosphère et ce qui sera retiré de l'atmosphère par le stockage, que l'on peut penser que certains y verraient l'action de la géo-ingénierie. Mais elle n'est pas mentionnée en tant que telle, et les équilibres en question renvoient habituellement à la fixation du carbone par la végétation et dans les sols, et aussi peut-être à la capture du CO2 au sortir des centrales thermiques qui permettent de produire de l'électricité pour l'enfouir dans les sols. On ne sait pas ça. Mais il n'y a rien de décrit de manière précise du point de vue technologique dans cet accord. Il n'y a pas de filière, il n'y a pas de mention précise du solaire, de la géothermie, etc. etc. Donc il n'y a pas plus non plus de mention de la géo-ingénierie.
Hervé Kempf, peut-être pour terminer, est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait réellement un après COP21?
Oui, quand même, parce qu'il y a un nouveau cadre de référence qui est fixé, mais c'est clair que l'action ne semble pas devoir venir essentiellement des États maintenant. Mais beaucoup plus par un ensemble d'acteurs, les marchés financiers, les banques, les investisseurs qui disent qu'ils veulent se désinvestir des fossiles, en tout cas certains d'entre eux, des collectivités locales. Il y a effectivement un grand mouvement d'un certain nombre de grandes métropoles du monde qui se fixent des objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Et puis il y a une société civile aussi qui est très présente, qui s'est manifestée, on l'a surtout vu en France, mais ça c'était existant aussi dans d'autres pays, et une société civile qui entend vraiment peser après la COP et ne pas s'arrêter à la COP21.
Merci beaucoup à tous les deux. Olivier Godard, on peut citer votre dernier livre, Justice climatique mondiale, c'est aux éditions de La Découverte. Et puis Hervé Kempf, ceux qui souhaitent lire votre décryptage de l'accord de Paris, l'article est en ligne sur votre site reporter.net. Et puis on vous retrouvera au micro de La Tête au Carré à la rentrée pour notre rendez-vous science et écologie. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Axel.
Merci Mathieu.
Et à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, peut-être une explication au mystère du triangle des Bermudes. Suite à l'observation de drôles de phénomènes au large de la Sibérie, une équipe norvégienne postule que sous l'effet du réchauffement climatique, d'énormes poches de gaz appelées dolines s'ouvrent sans prévenir au fond de l'océan, libérant brusquement d'immenses nuages de bulles de méthane. Selon les chercheurs, cette mousse de bulles ne permettrait plus à l'eau de soutenir un bateau en surface qui sombrerait à la verticale vers le fond. Les mêmes émanations de méthane pourraient également se produire dans le triangle des Bermudes, donc au large de la Floride. La fusion nucléaire, une énergie propre et illimitée, voici la mission du nouveau réacteur Stellarator, enfin mis sur pied par des scientifiques allemands après 9 ans de travaux et 1 milliard d'euros investis. Leur objectif est de créer un soleil artificiel qui reproduise la fusion nucléaire naturellement produite dans le cœur de notre étoile. La semaine dernière, la machine fraîchement inaugurée a réussi à former un premier plasma de 16 mètres de large pendant 1/10 seconde. Une première étape très prometteuse pour cette technologie considérée comme le Saint Graal des énergies propres. Et puis pour finir, de nouvelles photos de Mars prises par Curiosity. Il s'agit cette fois des premières photos en haute résolution de dunes de sable de Bagnold. Des très belles images qui serviront à examiner plus en détail ces édifices sableux de la planète rouge et mieux comprendre leur formation. Vous pouvez dès à présent consulter ces clichés sur le Facebook et le Twitter de l'émission. Et le dossier dans un instant. I walk until drops. I walk until you grow. I walk until I walk on tiptoes. I feel like I'm starting down an endless road. Le monde est-il las? Le monde est-il saut? Le monde est-il pile ou face? Le monde est-il souple ou suppose? Strange, but I remain. Camille et Yael Naïm à l'instant.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Un dossier avec Pierre Vincenzo Piazza qui vient de recevoir donc le Grand Prix de l'Inserm la semaine dernière au Collège de France. Vous êtes donc avec nous en duplex depuis les studios de France Bleu Gironde à Bordeaux. Pierre Vincenzo Piazza, l'occasion donc cet après-midi de comprendre les travaux que vous avez menés et puis les découvertes donc que vous avez réalisées dans le domaine de l'addiction. On va beaucoup parler de l'addiction au cannabis avec vous et avec les questions des auditeurs qui arrivent déjà d'ailleurs sur le site de l'émission franceinter.fr et le mot-clé la TAC. Vous êtes donc Pierre Vincenzo Piazza, neurobiologiste, chercheur dans l'équipe INSERM de physiopathologie de l'addiction. Et vous êtes directeur du neurocentre Magendy à Bordeaux. Vous avez donc reçu ce grand prix pour vos travaux sur la physiopathologie des maladies psychiatriques. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que c'est que la physiopathologie?
Alors, en médecine en général, vous avez deux aspects. C'est la physiologie, c'est comment un organe fonctionne. Et la physiopathologie, c'est les mécanismes à travers lesquels on va de la normalité à la maladie. Ça ne se fait pas par hasard, ça se fait en suivant des mécanismes bien spécifiques. Et si vous voulez trouver des thérapies qui sont vraies, qui marchent bien, eh bien, il faut comprendre les mécanismes de la maladie pour pouvoir les renverser, les corriger. Et en psychiatrie, c'est la seule science médicale ou au moins quand j'ai commencé moi, à faire la recherche, il n'y avait aucun mécanisme physiopathologique, donc aucun mécanisme des maladies mentales qui était connu. Et c'était l'objectif de base de toute ma carrière.
Donc aujourd'hui, évidemment, ça, grâce à vos recherches, c'est une façon évidemment diamétralement opposée d'envisager une addiction, par exemple, à une drogue.
Oui, ben, si vous voulez, fondamentalement, la vision qui était dominante, et malheureusement qu'elle est toujours au niveau de notre société, de beaucoup de sociétés, c'est que le toxicomane, il est un peu coupable du malheur qui lui arrive.
Oui.
Et au niveau scientifique, ça s'était basé sur l'idée, ou s'appuyait sur l'idée, qu'en fait, tout le monde est égal face à la drogue. Et ça suffit d'avoir la tête dure et vouloir prendre de la drogue de façon répétée et chronique pour devenir toxicomane. Donc, oui, une maladie, parce que la drogue va changer votre cerveau, va vous rendre dépendant, mais en même temps, un peu des malversations du point de vue de l'individu.
Et on verra.
Et en fait, c'est pas du tout le cas.
Oui,
c'est pas du tout comme ça que ça marche.
On verra les facteurs biologiques, évidemment, qui sont absolument prépondérants. Et puis, vous nous direz également que nous sommes loin d'être tous égaux face, justement, à l'addiction. Mmh. On va parler de tout ça avec vous dans un instant. J'aimerais quand même qu'on évoque un peu votre parcours, Pierre Vincenzo Piazza, parce que votre histoire commence sur l'île volcanique de la Sicile. Alors, il paraît que vous vouliez être chercheur dès l'âge de 4 ou 5 ans. Mais comment c'est possible, ça?
Ah ben, ça, c'est à vous de me le dire.
J'aimerais bien le savoir, en tout cas. Vous avez essayé de comprendre comment, à cet âge-là, déjà, on s'intéresse à la recherche scientifique?
Ben, je ne sais pas. Je pense que j'étais sûrement pas un enfant attardé. J'avais des parents, surtout ma mère, qui était très intellectuelle, entre guillemets. Et j'ai toujours voulu savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière les choses, comment ça marchait. D'ailleurs, j'ai cassé tous mes jouets, c'était une catastrophe, hein. C'était pourquoi à tout. Donc j'ai rendu vraiment mon enfance insupportable pour mes parents, plutôt que l'envers.
Oui.
Et voilà, je suis né programmé. Moi, je suis né programmé pour faire ça.
Donc vous étiez déjà très très curieux et avec cette envie de faire ce travail. Vous aviez, je crois, une petite boîte de chimiste, hein, c'est ça, qui vous a beaucoup inspiré?
Non, mais en fait, à partir de l'âge où on peut choisir ses cadeaux, tous les cadeaux que je me faisais faire, c'était les microscopes. D'ailleurs, ces microscopes ne servent à rien. Je ne suis jamais arrivé à voir quoi que ce soit, les microscopes pour l'enfant.
Oui.
Les petits chimistes, c'est mieux parce qu'on peut faire des bombes.
Oui.
Et ça, c'est beaucoup plus amusant.
Et ça a été votre cas? Vous avez fait exploser votre maison à l'époque ou pas?
Non, c'était avec un ami, lui était un peu dans ces choses-là, on faisait plutôt exploser les maisons des copains. Ah oui. On demandait la permission aux parents d'abord, qui nous voyaient tout petits, on lui disait « Est-ce qu'on peut faire une bombe ?» Il nous disait « Oui, oui, vous inquiétez pas, mais vous savez, après il faut répandre les salons, mais non, allez-y les enfants
voilà. !» C'est ça. Bon, c'est l'avantage de vivre près des volcans en même temps, on est habitué aux éruptions et aux bombes, donc finalement voilà, on a un rapport un petit peu différent à la question. Vous aviez des scientifiques dans votre famille ou pas du tout Pierre Vincenzo-Piazza?
Non, peut-être les dernières qu'on pourrait définir un scientifique, c'était mon arrière-grand-père côté maternel qui était prof de médecine, de pathologie générale, mais bon, il est mort à peu près quand j'avais 4 ans. Peut-être c'est la réincarnation du grand-père qui m'a...
4 ans plus tard, il y a un petit problème quand même de réincarnation.
Non, lui il est mort quand j'avais 4 ans, peu près quand j'ai décidé de faire le scientifique. Donc c'est peut-être là l'explication.
Vous avez commencé par quoi? Par des études de philo au départ, avant de faire de la neurobiologie?
Donc en fait, d'abord ce qui me plaisait c'était les mondes vivants. Après quand je suis devenu un peu plus grand, vers 12 ans, je pensais que... la chose la plus complexe, c'était les cerveaux. Et il y avait beaucoup de psychanalystes qui tournaient dans la famille. Donc, je me suis dit que les scientifiques du cerveau, c'était les psychanalystes. Mais après, je suis devenu très passionné par la philosophie. Et donc, au début, en fait, c'était philosophie, psychanalyse, la chose que je voulais faire. Et je me suis inscrit en médecine parce qu'on m'a dit que c'était plus facile de faire le psychanalyste en Italie si on était médecin. Mmh. Et là, je suis retombé amoureux du monde biologique avec la chimie qui a été ma première grande passion pendant les études de médecine.
Pierre Vincenzo Piazza, on va rester un tout petit peu, un court instant du côté de la psychanalyse avec ce micro-trottoir réalisé en 1972 dans un rendez-vous qui s'appelait « Les grands problèmes de la psychologie » où on interrogeait les gens dans la rue sur les rêves.
Pour vous, le rêve, est-ce que c'est important? Le rêve, pour moi, je n'ai que ça.
Je rêve comme ça. Je rêve surtout de musique, moi, mais l'accordéon, c'est ça qui me plaît. Moi.
Est-ce que pour vous, le rêve fait partie de la psychologie?
Je crois parce que, enfin il m'arrive de rêver, parfois c'est complètement incohérent, et puis j'y pense et je me rends compte qu'il y a beaucoup de relations entre des choses que j'ai un peu en moi, enfin j'arrive à me découvrir par le rêve.
Est-ce que vous rêvez souvent?
Non, très peu.
Oui, énormément.
Et à chaque fois assez longtemps?
Ben, je ne sais pas, enfin les gens disent en général que le rêve est très court, qu'il dure un dixième de seconde ou une seconde, mais ça j'arrive vraiment pas à comprendre. Parce que chez moi, c'est très long.
Vous rêvez en noir ou vous rêvez en couleur?
Mes rêves, ils sont flous. Alors, je ne sais pas si c'est du noir ou de la couleur.
Voilà, Pierre Vincenzo Piazza, l'interprétation des rêves de Freud. Je crois que ça a été un ouvrage important pour vous, quand même, à cette époque, là, telle que vous nous la décriviez il y a un instant.
Oui, oui. C'est la première chose que j'ai lue de Freud. Oui, tout à fait. C'est là que j'ai démarré.
Ouais. Est-ce que vous avez étudié l'influence des rêves par rapport à une prise de drogue, justement? Est-ce qu'il y a des choses qui se font dans ce domaine?
Non, pas beaucoup, mais c'est une voie qui pourrait être intéressante parce que ce qu'on sait, que pendant les rêves, on enregistre de façon forte les informations de la journée. Donc ça aide à la consolidation de la mémoire. Donc est-ce qu'il y a une influence entre cette mémoire très difficile à effacer, que c'est celle de la drogue, et les faits et les rêves? Pourquoi pas?
Ce serait une bonne question.
Oui.
La neurobiologie, donc cette rencontre après les études de philo et donc ce domaine particulier de la médecine, ça a été un vrai coup de foudre, je crois, pour vous. Qu'est-ce qui vous a autant intéressé dans cette discipline? C'est tout ce qui se passait vraiment dans le cerveau?
Ben, si vous voulez, oui, aussi parce que y a eu deux facteurs. D'une part, j'étais déçu par la psychanalyse, que j'ai un peu pratiqué, parce qu'il y a ces côtés dogmatiques. Qui est énorme, à savoir, on passe encore du temps à essayer d'interpréter ce qu'ils ont dit des gens qui sont morts depuis très longtemps. Mmh. C'est vraiment le contraire d'un esprit scientifique. Et après, très vite, en fait, en connaissant bien, c'est un grand mot, mais en connaissant de la physique à la chimie jusqu'à la biologie, j'ai pensé très vite qu'on n'avait pas besoin de faire appel à l'âme ou à quelque chose d'immatériel pour expliquer l'être humain. Donc, je me suis mis dans cette voie qu'il est pas réductionniste du tout, hein, parce que la biologie, en plus aujourd'hui, on sait qu'elle n'est pas réductionniste, même si ce n'est pas passé dans la culture pop. Et donc, je pensais que tout simplement, pour soigner les maladies psychiatriques, c'était des vrais médicaments qu'il nous fallait. Et l'effet qu'aujourd'hui, ou à l'époque, on n'y arrivait pas vraiment, ce n'est pas parce que c'est des maladies de l'esprit qui ne sont pas accessibles par la biologie, c'est juste parce qu'on y allait avec la hache, alors qu'on aurait dû utiliser un bistouri pharmacologique.
Et c'est la piste sur laquelle vous travaillez aujourd'hui, on va en parler dans un instant, justement, avec des médicaments, pourquoi pas, pour pallier au problème de l'addiction au cannabis. Et d'autres promesses également, vous êtes notre invité, Pierre Vincenzo Piazza, avec les courriels des auditeurs qui arrivent sur le site de l'émission franceinter.fr. A tout de suite.
Se ti incontro un giorno che non piove, io ti sposo. E non dire no, che son tre vite che non riposo. Ma piove laggiù, sopra i campi, sopra il mare blu. Il vento è poesia, la notte madida di nostalgia. Ti ricorderò per la dolcezza che mi hai donato. Non mi illuderò di avere indietro quel mio passato. Ma vorrei laggiù, su quei campi, su quel mare blu, un po' di poesia. La notte magica e sei tutta mia. Splendida, bella come un tempo, da far morire la realtà, sembrerà un inganno, con l'anima vedrai un mare in luce e ti accorgerai che quel mare in luce non finisce mai, se saprai ridere del tempo in questa vita, se vorrai. Quando c'è buon vento potrai incontrarmi là nel mare in luce, mi racconterai che quel mare in luce non finisce mai.
Chez Raphaël Gualazzi. Ben, c'était un peu pour vous quand même, Pierre Vincenzo Piazza, cette chanson qui vient tout droit de chez vous. Vous êtes notre invité, Grand Prix INSERM 2015 pour vos travaux sur la toxicomanie. À quel moment vous quittez la Sicile d'ailleurs pour débarquer en France ?
J'arrive en France le 3 juillet 88. Voilà.
Et qu'est-ce qui vous fait venir chez nous alors ?
c'est que en fait, ça faisait longtemps que j'essayais d'aller à l'étranger, de trouver un bon laboratoire. Et à Bordeaux, il y avait le laboratoire d'un monsieur qui était mon mentor et patron pendant longtemps, s'appelle Michel Lemoine, que c'était ce qu'on appelle en science un père de la dopamine. C'était un des découvreurs, une des premières personnes qui avait compris à quoi ça servait, ce neurotransmetteur de la dopamine, c'est le neurotransmetteur du plaisir, et aussi très impliqué dans la toxicomanie. Donc j'ai pu les rencontrer en congrès. Alors les versions sont différentes. Moi j'ai dit que lui m'a demandé de venir. Lui il dit que je lui ai fait un pressing pour aller chez lui. Mm-hmm. Quoi qu'il en soit, 6 mois après, j'ai débarqué à Bordeaux et j'en suis jamais plus reparti.
Oui, ça a été Michel Lemoine l'un des premiers justement à avoir fait de la psychiatrie expérimentale, comme on l'expliquait tout à l'heure.
Hein. Absolument. Oui, absolument. C'est vraiment un pionnier.
Hein, oui, et votre parcours, justement, a été à ses côtés assez fulgurant, puisque je crois que moins d'un an après votre arrivée à Bordeaux, vous co-signez votre premier article dans la revue Science. Quel était l'objet, justement, de cet article ?
Ben, cet article décrit la vulnérabilité. C'est le premier article qui démontre que chez l'animal, il y a des individus qui sont plus vulnérables à prendre de la drogue que d'autres. Alors, parce que chez l'homme, le fait qu'il y avait une vulnérabilité individuelle, on les connaissait, mais on avait tendance à l'interpréter comme le fait qu'à cause de la pression sociale des copains, cet individu était plus exposé à la drogue que d'autres. Et donc il en prenait plus, et donc il devenait toxicomane. Donc la protection vulnérabilité, c'était la chance de rencontrer la drogue. Alors que chez les animaux, ben, vous pouvez les exposer exactement tous à la même quantité de drogue, et malgré ça, vous voyez que certains sujets développent très vite une prise importante de drogue, et d'autres, oui, il en prend un peu, au début c'est rigolo, et après ils arrêtent. Il faut aussi dire, parce que sinon on ne va pas comprendre, c'est que la prise de drogue, c'est un des comportements les plus préservés tout le long de l'évolution. On commence à la retrouver chez les vers de terre, la mouche, les rongeurs, les poissons, les singes, et à la fin l'homme.
Alors ça, c'est effectivement quelque chose moi, qui m'a beaucoup surpris quand j'ai lu les portraits qui vous étaient consacrés, puisque vous le dites, effectivement, dans tout le règne animal, au fond, on fait appel à la drogue.
Oui, mais parce que en fait, si vous voulez, ce qu'ils font, ces substances qu'on appelle les drogues, d'ailleurs, on connaît pas vraiment 100% pourquoi elles donnent de la toxicomanie, mais on sait pourquoi elles sont plaisantes et pourquoi les gens les prennent. C'est parce qu'en fait, vont court-circuiter, vont activer de façon chimique, donc plus facile et plus intense, les systèmes de récompense qui sont rien d'autre que les systèmes qui s'activent pour nous faire atteindre un but, pour arriver à quelque chose, et qui nous donnent de la satisfaction quand on arrive à attraper ce que nous cherchons. Si vous voulez, le cerveau se développe de façon très simple, hein, même le cerveau très simple, vous avez quelques neurones qui vous font aller vers de la nourriture en partenaire sexuel, et d'autres neurones qui vous font éviter le feu, l'air si vous êtes un poisson, ou l'eau si vous êtes un mollusque terrestre. Voilà, donc la drogue va agir sur ces neurones qu'on retrouve pratiquement chez tous les animaux.
Donc on pourrait dire presque de façon un peu provocatrice que la drogue c'est normal dans le règne du vivant alors.
Ah, c'est surtout chez l'homme que c'est normal. Ouais. Dans le sens que prendre de la... En fait, pour utiliser une expression, je ne sais pas en fait comment il faut le dire, mais disons, s'envoyer en l'air ou changer état de conscience, c'est quelque chose que l'espèce humaine recherche de façon très importante. Et pas qu'avec la drogue. Les sports, la vitesse, les dangers, l'être humain adore exalter son état de conscience, avoir des stimulations très fortes. Et nous dépensons une quantité d'argent énorme pour pouvoir paquer avec la drogue. Et donc, la drogue n'est rien d'autre qu'un autre mécanisme, pas forcément beaucoup plus dangereux que d'autres. Par exemple, vous prenez les skis, c'est quand même une activité assez dangereuse qui n'a pas vraiment une grosse signification évolutive, sauf celle de se donner des sensations fortes. Oui, donc, prendre la drogue de façon récréative, c'est peut-être pas moral, mais normal. À savoir, c'est ancré dans notre espèce.
Alors justement, chercher des sensations fortes à tous les âges de la vie, mais en particulier à l'adolescence, le problème du cannabis chez les jeunes, on écoute ce petit reportage de la télévision suisse.
Ben, Moritz, c'est à peu près tous les jours. À peu près tous les jours.
À peu près tous les jours aussi.
De fumer un joint tous les jours, vous trouvez ça normal?
Pour certaines personnes, c'est pas normal ça. Pour certaines personnes, ils se disent « ouais, c'est trop » et tout. Mais ouais, tout dépend des personnes, tout dépend de ce qu'ils font dans leur vie, le boulot et tout ça.
Puis il y a certaines personnes, c'est pire, ils fument, je sais pas, presque 20 bédo perso, tout seul.
Moi, je fume beaucoup plus quand je suis entre amis que tout seul. Parce que je trouve que c'est... Enfin, c'est mieux pour le moral, ça nous rend mieux quand on est avec des amis, on part, on tripe.
Ça arrive de fumer seul, oui, des fois, peut-être si on est un peu déprimé, on se dit, putain, on fait chier. Puis on veut décoller un peu.
Ça fait toujours du bien de faire une pause, de temps en temps. Pause de 2 jours, si on fume tout le temps, pause d'un jour.
C'est pas une obligation de fumer, c'est une envie.
Alors, c'est pas une obligation de fumer, c'est une envie, disait donc ce jeune Pierre Vincenzo Piazza. Qu'est-ce que vous pensez, à la lumière évidemment de vos travaux, de ce que vous venez d'entendre?
C'est mon question. À savoir, c'est la première chose que les reportages montrent, c'est qu'on peut avoir une addiction au cannabis. Disons que certains des descriptions sont un peu la description mitigée de celui qui commence à rentrer dans un état de dépendance et qui fume beaucoup et qui a besoin, par exemple classique, on fume plus quand on est avec les autres. Le cannabis devient un pont entre nous et la réalité. D'ailleurs, c'est ça quelque chose qu'il fait beaucoup, le cannabis. Il devient le métronome de beaucoup d'activités, y compris la prise alimentaire. Donc tout va se cycler sous la prise de cannabis.
Gabriel nous dit ceci sur franceinter.fr. La consommation de cannabis induit presque toujours l'addiction au tabac pour faciliter sa combustion. Je voudrais savoir, dit Gabriel, si le tabac n'est pas le principal agent addictif de la consommation récréative de cannabis. Alors là, il y a des choses intéressantes aussi là-dessus. Hein.
Oui, mais... Alors, il y a quelque chose que c'est sûr, c'est qu'il y a une très forte prévalence d'addiction à la nicotine chez les fumeurs de cannabis. Mais ce n'est pas la nicotine qui induit la dépendance au cannabis. D'abord parce que les symptômes sont complètement différents. Après, parce que vous avez des gens qui fument du cannabis, la plante, les feuilles, sans tabac. Il y en a d'autres qui utilisent je sais pas si c'est les bongs, où vous mettez un peu des résines de cannabis. Donc non, je pense que c'est plutôt l'effet que si on fume du cannabis, peut-être l'effet de la nicotine se rajoute bien aux effets du cannabis, et donc on a tendance à développer les deux toxicomanies.
Oui, mais si Pierre Vincenzo Piazza, on fume pour la première fois du tabac, ou si pour la première fois on prend de la cocaïne ou de l'héroïne dans les drogues dures, la chance d'être addict à ces produits est plus importante du côté du tabac, je crois.
Alors oui, si vous faites une classification très simple, avec des statistiques, on retrouve à peu près les mêmes dans tous les pays, c'est la chance que vous avez de développer une toxicomanie dans l'année 2 si vous touchez, si vous essayez une drogue à l'année 1. Donc une cigarette année 1, c'est 33% des chances de devenir toxicomane aux cigarettes l'année 2. Après, vous avez cocaïne, héroïne, alcool qui sont dans un mouchoir de poche entre 20% plus ou moins 2 ou 3. Et les cannabis qui, aujourd'hui, atteignent les 15%. Il était moins, il y a quelques années. c'était 10% ou 8%, mais parce qu'on avait une drogue beaucoup plus légère. Aujourd'hui, on a en circulation un cannabis qui est beaucoup plus toxicomanogène de ce qu'on avait dans les années 80, par exemple.
Allez, on va se retrouver dans un instant pour expliquer comment se fait justement le passage à l'addiction. C'est ce que vous avez bien étudié. Et puis également les médicaments, peut-être au point dans quelques années, pour nous aider à être moins addicts à ce type de produit.
Heavy words, little lies, telling everything but the truth, the truth. Three little words over time, overheard and overused, used. No sweet. Spend it all.
Consommer ?
Oui.
Et autour de vous, il y a beaucoup de gens qui consomment ?
Bien sûr, il y a tout le monde. Faut pas faire genre, ouais. Mes parents, ils me disaient, ouais, mais t'es un des seuls qui fume. Mais il y a tout le monde qui fume ça. Faut pas se leurrer.
Vous pensez que ça comporte des risques ?
Venir complètement fou. Puis venir dépendant de ça.
Ouais, je sais pas, il y en a qui peuvent faire overdose de cette merde.
Vous pensez qu'on peut venir dépendant ?
Non, je pense pas.
Voilà, ce sont des adolescents qui parlent. Pierre Vincenzo Piazza, oui. Vous êtes Grand Prix INSERM 2015. 700 000 consommateurs rien qu'en France de cannabis. Et cette jeune femme qui nous disait, je ne pense pas qu'on puisse devenir dépendante.
700 000 toxicomanes, pas consommateurs.
Toxicomanes. Et cette jeune
consommateur,
fille...
Consommateurs, oui, consommateurs beaucoup plus.
Oui, absolument. Et cette jeune femme donc, qui ne croyait pas à la dépendance au cannabis.
Mais c'est quelque chose de, si vous voulez, d'assez... Je n'y ai pas bizarre, mais c'est vrai qu'avec les cannabis, on a un peu raté les coches. Mmh. Et on a commencé à avoir cette image d'une drogue douce qui ne donne pas de la dépendance, qui ne rend pas toxicomane, alors qu'on sait depuis très longtemps que ce n'est pas le cas du tout. Voilà, donc les cannabis rend toxicomane et malheureusement, même s'il y a un nombre plus faible par rapport aux autres drogues, donc c'est 1 sur 10 ou 1 ou 2 sur 15, mm-hmm. mais sauver les gens du cannabis, savoir les soigner une fois qu'ils sont toxicomanes, s'avère extrêmement difficile.
Ouais.
Aussi difficile, sinon plus difficile qu'avec d'autres drogues.
Thierry demande, est-ce que la pratique des sports intensifs, la recherche des sensations fortes dont vous parliez tout à l'heure, présage d'un terrain favorable aux addictions chimiques ?
Ça, c'est une bonne question pour laquelle on n'a pas une réponse certes. En sachant qu'est-ce qu'il fait le sport dans le cerveau, on pourrait imaginer, mais là je n'engage que moi, que quelqu'un qui pendant très longtemps a fait du sport de façon très intensive, ou a été soumis à des sensations fortes de façon très intensive, une fois qu'il arrête, il est peut-être plus vulnérable pour développer une consommation soutenue d'une drogue.
Oui. En tout cas, ce que vous avez montré...
Parce que son cerveau aura été changé, il aura été sensibilisé à cette suractivation répétée. Donc, c'est possible.
Pierre Vincenzo Piazza, en tout cas, ce que vous avez démontré, c'est que le passage à l'abus, donc à l'addiction, était augmenté par des facteurs de stress ou d'éléments négatifs, par exemple.
Oui. Oui, non, parce que vous voyez, quand on parle de biologie, malheureusement, et ça arrive même dans les étudiants en master en neurobiologie, hein, c'est pas, les gens pensent génétique. Alors que les cerveaux, quand on parle de biologie du cerveau, on parle de l'état de la structure du cerveau à un moment donné. Et pour les cerveaux, on sait très bien que ce qui les construit, c'est probablement plus les expériences de vie que les gènes. Si vous prenez des souris que vous avez fait grandir dans un environnement appauvri ou un environnement riche, et vous regardez leurs neurones, eh bien, la souris qui était dans l'environnement appauvri a un neurone qui ressemble à un boulot, et la souris qui a vécu dans un environnement riche a un neurone qui ressemble à un chêne centenaire. Donc, c'est la biologie qui va déterminer votre vulnérabilité et le stress, même le stress prénatal, est un facteur qui va changer énormément la physionomie de votre cerveau et il peut vous rendre vulnérable.
À l'abus de drogue donc, hein, évidemment.
Oui, oui. Ouais. Oui, vulnérable à l'abus de drogue, absolument.
Qu'est-ce qui se passe alors dans le cerveau lorsqu'on bascule vers l'addiction exactement, Pierre Vincenzo Piazza ?
Alors, je dirais qu'il y a deux étapes. La première, c'est celle qui va nous faire passer d'une consommation récréative, sporadique, enfin de temps en temps, un week-end par mois, ou même quelques week-ends par mois, où surtout les adolescents essayent un peu tout, l'alcool, les cigarettes, les cannabis, ou autre chose. Chez certains individus, ces neurones dopaminergiques et les systèmes du stress ont créé un terroir favorable. Et donc, les drogues donnent beaucoup plus de plaisir et sont beaucoup plus motivantes pour ces sujets qui ont ces systèmes dopaminergiques hyperactifs. Donc, ces sujets-là vont vouloir rechercher et auront plus de plaisir à prendre de la drogue. Donc, ils vont se mettre dans une condition où progressivement vont développer ce qu'on appelle l'abus de drogue, à savoir une prise soutenue, régulière, qui n'est pas encore vraiment la toxicomanie, parce qu'en ligne générale, les sujets, la personne commence à avoir des problèmes, mais il garde une structure de vie qui est à peu près normale. Après, chez certains sujets qui ont un deuxième type de vulnérabilité, c'est qu'on pense aujourd'hui c'est que c'est une fonction des bases du cerveau, que c'est non compliqué, la plasticité synaptique, c'est ce qui vous permet de passer d'un comportement à l'autre, donc d'avoir un comportement plastique qui ne marche plus, et donc il reste enfermé dans la prise de drogue. Ils font ce que j'appelle une cristallisation comportementale, et donc ils ne peuvent pas sortir de ces comportements, tout simplement parce que leur cerveau n'est plus capable de faire cette fonction basique. Ce qu'il faut savoir, que tout ça n'arrive qu'à la fin dans 20% de la population. La plupart des sujets arrivent pas à ne pas avoir les effets néfastes de la drogue, mais à les contrecarrer en mettant en place ce qu'on appelle une résilience biologique, et n'est pas sombré dans la toxicomanie.
D'où effectivement ces inégalités face aux drogues.
Oui,
l'année dernière, Pierre Vincenzo Piazza, vous découvrez une hormone produite par le cerveau et qui pourrait nous aider à lutter contre les effets néfastes du cannabis. Reportage sur TF1.
Comment agir sur l'addiction? Comment empêcher ce rongeur de réclamer sa dose? Dans ce laboratoire bordelais, les chercheurs ont découvert un mécanisme naturel de défense contre les effets néfastes du cannabis. C'est une molécule du cerveau qui agit. Pour l'expérience, on a inoculé à des souris des doses de cannabis très supérieures à celles du consommateur régulier. Et lorsque la drogue s'attaque aux neurones, la prégnénolone, c'est le nom de cette molécule, entre en action et bloque le processus. Comme elle se dégrade vite à l'état naturel, ce sont des dérivés qui ont été mis au point ici, avec les mêmes résultats.
Les molécules que nous avons développées, on sait qu'ils bloquent les effets sur la mémoire, les effets sur la motivation et l'envie de consommer la substance. Donc, peuvent être en aide pour la thérapeutique.
Les essais sur l'homme pourraient débuter dans un an et demi. Et si tout va bien, on disposera peut-être dans 5 ans du premier médicament contre l'intoxication au cannabis. 500 000 personnes seraient dépendantes à cette drogue en France.
Voilà, on parlait de 700 000 tout à l'heure avec vous, Pierre Vincenzo Piazza.
Ouais.
Il est prévu pour quand ce médicament? Pour l'homme, évidemment, parce que là, les effets sont sur la souris. Il y a beaucoup de promesses autour de ce que vous avez découvert. C'est très important.
Oui. Donc, oui, on va tester chez l'homme mi-2016. Et je pense que si tout va bien, les médicaments pourraient être sur le marché 4 ans après. Vous savez, il faut toujours être prudent, mais oui, il y a beaucoup d'attentes parce que c'est vraiment un mécanisme très innovant. En fait, on ne bloque pas les effets du cannabis, mais on change le cannabis dans une autre substance. C'est un peu compliqué comme concept, à la rendant moins addictive.
Ouais. Bon, on attend le résultat évidemment avec impatience. Bon travail d'ici là, bonne recherche avec toute votre équipe de Bordeaux, parce que vous avez fait des découvertes extrêmement importantes. Et puis là, il y a encore beaucoup de choses qui avancent avec une start-up entre autres que vous avez mise en place pour pouvoir permettre la réalisation de
Alice Pharma.
Voilà, absolument.
Absolument.
Merci beaucoup Pierre Vincenzo Piazza, encore félicitations pour ce Grand Prix INSERM 2015.
Merci à vous.
Et merci aux équipes de France Bleu Gironde à Bordeaux qui nous ont permis de réaliser ce duplex aujourd'hui. Bonne journée à vous.